Concours Eurovision de la chanson, un peu comme un suffrage censitaire, par Bernard Henneberg, lu par Jean-Marie Chazot. Le site Huffington Post le rappelle le 20 mai 2025. Pour le concours Eurovision de la chanson, le public peut voter par trois canaux, le paiement par SMS, l'appel téléphonique ou la carte bancaire via Internet. Et chaque personne ainsi en déboursant peut exprimer ses suffrages pour un seul artiste ou pour plein de différents, jusqu'à presque plus soif. On est ainsi bien plus proche du vote censitaire que de l'exemple d'un concours où les votants sont égaux entre eux. Le résultat de pareille réglementation permet de mettre en avant les goûts de ceux et celles qui sont prêts à payer à de nombreuses reprises, plutôt que de déposer un seul bulletin dans l'urne. Pour rappel, le public ne peut pas voter pour le candidat ou la candidate de son propre pays. Cette année-là, le nombre de fois au maximum qu'une personne peut voter est peu ou pas médiatisé. On peut parier sur 10 fois. Aucun chiffrage détaillé n'est divulgué de façon précise dans les explications du mode d'emploi donné aux innombrables téléspectateurs au cours de l'émission elle-même. Constatons qu'en 2025, on commence enfin à se poser des questions à ce sujet, mais pas vraiment parce que cette façon de faire privilégie les votants prêts à débourser à plein de reprises les frais liés à chacun de leurs multiples votes. L'origine de cet intérêt vient surtout du constat que ceux et celles qui soutiennent la candidate d'Israël au cours de cette édition se déroulant à Bâle veulent à tout prix lui faire acquérir la place la plus élevée possible dans le palmarès. Cela sera en partie réussi puisque Yuval Raphaël, survivante de l'attaque du 7 octobre, arrivera en seconde position. Le 21 novembre 2025, France Info, avec l'agence France Presse, publie un article qui annonce que cette situation va évoluer et choisit de titrer son texte « L'Eurovision modifie les règles de vote après la controverse autour d'Israël ». D'autres journaux vont dans le même sens. Par exemple, La Libre du 22 novembre 2025. Le soutien public massif attribué aux candidats israéliens ces dernières années a suscité la controverse. Ces journaux n'indiquent pas dans leurs articles qu'il faille interdire à un pays de participer à l'Eurovision, mais s'interrogent plutôt sur la façon dont le public a été amené à voter pour sa représentante. Ces précisions sur la cause de la modification du règlement sont significatives lorsqu'on constate que le communiqué officiel de l'Union européenne de radio-télévision, UER, fait l'impasse sur cette explication. Il n'indique pas précisément ce qu'il a finalement décidé à mettre en place pareil changement historique concernant le vote du public. Il se permet juste un vague « il est en effet important que le concours reste un espace neutre et qu'il ne soit pas instrumentalisé », ce qui peut laisser entendre qu'il l'a été. Dans ce cas, par qui ? Par quoi ? Mystère et boule de gomme. Pour le savoir, le public ne pourra que s'en référer aux articles des médias et pas à ce long communiqué officiel qui ne cite à aucun moment Israël. L'UER enfonce d'ailleurs encore davantage sa tête dans le sable en indiquant plus loin « Nous restons convaincus de la validité et de la fiabilité du résultat de l'édition 2025. » Mais alors, dans ce cas, pourquoi évoluer ? Il est important de souligner cette façon de faire pour montrer combien l'UER accepte ainsi officiellement de ne pas indiquer clairement au public la raison de ses agissements et s'avère incapable de décrire publiquement de façon précise ses faiblesses passées. En fait, dans ce texte officiel, beaucoup est exprimé d'une façon vague ou indirecte. Et n'est pas un synonyme de « ou ». Le communiqué de l'UER annonce que pour l'édition 2026, le nombre maximal de voix par mode de paiement, en ligne, par SMS et par téléphone, passera de 20 à 10. Les fans seront vivement encouragés à exprimer leur soutien en votant pour plusieurs prestations. Remarquons que le communiqué officiel utilise bien la conjonction de coordination « et » dans sa phrase, en ligne, par SMS et par téléphone. Dans sa version anglaise, on a droit à un « and ». Figurez-vous que l'article diffusé par France Info le 21 novembre 2025, que je viens de citer, transforme ce « et » en un « ou », ce qui donne « tous les habitants des dizaines de pays participants peuvent voter par téléphone, SMS ou en ligne ». Ce non-respect du texte du communiqué diminue fortement les possibilités de vote par individu. Avec les « et », la version officielle, chaque citoyen peut voter à partir de l'édition de 2026 jusqu'à 10 fois par téléphone, 10 fois par SMS et 10 fois en ligne, ce qui reste encore impressionnant. Donc, un maximum de 30 fois, au lieu de 60 fois au cours des années précédentes. Hélas, avec cette évolution du règlement, je pense que ma comparaison avec un suffrage censitaire continue de garder sa pertinence. En fait, on organise ces votes culturels soi-disant pour démocratiquement faire émerger les souhaits ou les préférences de la population, mais la vraie raison qui pollue le tout, c'est ce fait de gagner le plus d'argent possible en multipliant par individu les possibilités de vote. Martin Green, le directeur du concours, ne pense pas exactement de la même façon, puisqu'il précise dans le communiqué « Ces mesures nous permettront de concentrer toute notre attention sur ce qui est l'essence même de l'Eurovision, la musique, la créativité et le lien avec le public. Si nous restons convaincus de la viabilité et de la fiabilité du résultat de l'édition 2025, les modifications que nous avons décidé d'introduire offriront des garanties renforcées et feront augmenter la participation. Les fans auront l'assurance que chaque voix compte et que chacun peut se faire entendre. » Pour garder sa crédibilité, M. Green n'aurait-il pas dû ajouter à la fin de cette phrase un « en fonction de l'argent qu'il dépense » ? Changer ce qui n'allait pas. Dans ce communiqué de presse, d'autres modifications sont évoquées par le directeur. Elles laissent indirectement entendre que les éditions qui ont précédé ont révélé des failles. 1. Nous prenons des mesures claires et décisives afin que l'Eurovision continue de célébrer la musique et l'unité. Il est en effet important qu'il reste un espace neutre et qu'il ne soit pas instrumentalisé. 2. Ces nouvelles instructions découragent vivement toute campagne promotionnelle disproportionnée, en particulier si celle-ci est lancée ou appuyée par des tiers, notamment un gouvernement ou une agence gouvernementale. 3. Les artistes et les diffuseurs participants doivent s'abstenir de prendre une part active ou de contribuer à des campagnes promotionnelles de tiers susceptibles d'influer sur l'issue du scrutin. 4. Concernant les jurys de professionnels des différentes chaînes de télévision participantes, dont les suffrages constituent la moitié du vote, l'autre moitié de celui-ci étant constitué par ceux du public. Autre changement, le nombre de jurés passera de 5 à 7 et les horizons professionnels dont les jurés pourront être issus seront élargis, afin d'inclure des journalistes et critiques musicaux, des professeurs de musique, des chorégraphes et metteurs en scène, ainsi que des personnalités du monde de la musique. Bien sûr, le communiqué ne précise pas quelles étaient les spécificités professionnelles des jurés avant ce changement, mais on découvre par cette déclaration les manques à changer. 5. Tous les jurés devront signer une déclaration formelle, confirmant qu'ils voteront en toute indépendance et impartialité, qu'ils ne se concerteront pas avec d'autres jurés avant le concours et qu'ils feront un usage réfléchi des médias sociaux, en d'autres termes qu'ils ne partageront pas leurs préférences en ligne avant la fin du concours. Décider de ne pas décider. Le 4 décembre 2025, au cours de leur assemblée générale à Genève, les membres de l'UER, selon un nouveau communiqué officiel, ont apporté leur soutien à une série de modifications du règlement du concours visant à renforcer la confiance, la transparence et la neutralité de celui-ci. De plus, les membres ont décidé à une large majorité qu'il n'était pas nécessaire d'organiser un autre vote sur la participation et que l'Eurovision 2026 se déroulerait comme prévu avec les nouvelles garanties mises en place. Ainsi, la participation d'Israël pour l'édition 2026 reste d'actualité puisque la majorité des membres de l'UER ont décidé qu'il ne fallait pas organiser un vote à ce sujet. Le communiqué se termine ainsi. Dans le sillage de ce vote, les diffuseurs seront invités à confirmer leur participation à l'Eurovision 2026. La liste complète des participants à cette édition 2026, qui marquera le 70e anniversaire du concours, sera annoncée avant Noël 2025. Rapidement après la diffusion de ce communiqué, d'abord l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande et la Slovénie, puis l'Islande, ont annoncé leur boycott de l'édition du concours se déroulant à Vienne les 12, 14 et 16 mai 2026. Dans l'histoire de ce concours, il y a déjà eu d'autres non-participations, mais c'était souvent un seul pays qui en prenait l'initiative. En 1969, pour s'opposer à Franco, l'Autriche ne veut pas participer à l'édition se déroulant en Espagne. En 1975, la Grèce marque par son absence sa réticence à l'arrivée de la Turquie dans le concours. Et les deux années qui suivent, c'est la Turquie qui fera chaise vide à cause du retour de la Grèce. Elle n'ira pas non plus à l'édition du concours organisé à Jérusalem en 1979 sous la pression de pays arabes.